La première partie de la grande table, on est ensemble jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous. Comme un lundi, elle veut une université puissante en phase avec les réalités actuelles. Après avoir analysé les raisons de l'échec français, la philosophe Monique Cantos-Perber développe sa vision du supérieur dans l'oligarchie de l'excellence qui vient de paraître au Seuil. L'ancienne directrice de l'École normale supérieure est notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, il s'est fait un nom en inventant des noms, en repensant le rapport corps-langage, en remettant du rire dans le tragique du cycle naître et mourir. Auteur de théâtre, metteur en scène et peintre franco-suisse, Valère Novarina est notre invité jusqu'à midi et demi pour Le Vivier des Noms, un texte d'abord paru chez POL, son éditeur fidèle, créé à Avignon, et demain sur la scène de Malakoff. Une fois encore, il signe tout, texte, décor et mise en scène, au complet, la grande table. C'est le rendez-vous des arts et des idées, à écouter en direct ou à podcaster pour ne rien manquer, tout de suite sur France Culture ou plus tard, franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il a de la suite dans les idées, héritier des surréalistes, le dramaturge Valère Novarina écrit depuis 58, publie depuis 78 et met en scène depuis 86. Des œuvres théâtrales comme l'Atelier volant, Vous qui habitez le temps, l'opérette imaginaire, l'acte inconnu et des poésies en acte, le drame de la vie, le discours aux animaux, la chair de l'homme. Également essayiste et théoricien de son propre monde, il fait respirer les mots dans Devant la parole ou encore L'envers de l'esprit. Sa pièce donc, l'une des dernières, Le Vivier des Noms, sera sur la scène du théâtre, la scène nationale de Malakoff, au théâtre 71, à partir de mercredi jusqu'au 26 janvier. Valère Novarina, bonjour.
Bonjour.
Le Vivier des Noms, c'est une pièce pour marionnettes.
Ah oui, c'est ce que dit à la fin une. J'aime beaucoup au théâtre le moment du salut, le moment où les acteurs se mettent face au public, une sorte de face à face tout simple. Et le personnage que joue Valérie Vinci dit. Le Vivier des Noms, une messe pour marionnettes.
Seigneur voilà. Public, cesse de nous faire à ton image. Alors, c'est une pièce pour marionnettes ?
Je sais pas bien. En tout cas, c'est si vous voulez ce qui me. J'ai pas fait de grec. J'ai pas fait de grec, mais je peux dire quand même que le grec me manque tous les jours. Mais le peu de grec que j'essaye de récolter tout de même m'a dit que le mot théâtre, ça vient du mot vu. Donc, c'est la même racine que le mot théorie aussi. C'est très beau aussi ce mot de théorie, puisque pour les moines du Moyen-Âge, théorie, c'était la contemplation. Donc, le théâtre, pensez comme un outil d'optique. Non pas un outil pour voir l'homme, parce que voir l'homme, il faut le regarder dans son milieu normal et pas sur la scène, ça, mais voir comment l'homme se représente, comment l'homme fait l'homme, comment l'homme est vu par Soutine, par Picasso, par Bacon, et quand même par Lascaux, etc. Quels sont les... je ne sais pas, quelque chose que j'explore avec ce microscope, ce kaléidoscope du théâtre, sur la façon dont on se représente, la façon dont l'homme fait l'homme. Et il y a un moment, Dominique Pinon, dans un des spectacles, disait... resterait à dire ce qui distingue l'acteur véritable de l'imitateur d'hommes. C'est-à-dire jamais il s'imite des hommes, pas de psychologie, pas de sous-entendu, pas de passé des personnages, mais quelque chose comme la construction à vue d'un char d'hommes, d'une constellation d'hommes, enfin lutter contre l'idée d'individu, monter plutôt les forces qui nous rassemblent, qui nous séparent, et donc voir la figure humaine autrement.
Avec les années, il commence quand même à se dégager une représentation novarinesque de l'homme, hein, tout oui. En puisant dans des références à la fois picturales, théâtrales. Vous commencez à avoir votre propre conception de l'homme. Vous le définiriez comment ?
J'aime bien ce que vous avez dit, novarinesque, ça me plaît, parce que c'est un peu comme simiesque, il y a un peu de l'animal dans l'homme, on le voit tout de suite. Il y a de l'animal et il y a aussi du souffle, de l'esprit, voilà. Donc il me semble qu'à l'intérieur de l'homme, nous montons et nous descendons et nous explorons cette figure dans tous les sens.
Pour le Vivier des Noms, vous avez inventé combien ? Plus de 5000 noms ? Enfin, vous en avez repris peut-être certains que vous aviez déjà. On va y revenir sur ce processus oui. De création. Le fait que beaucoup de vos textes se répondent. Là, combien de mots à peu près ?
J'avais écrit il y a longtemps Le drame de la vie, où il y avait 2587 noms, et depuis, je me suis aperçu que les noms continuaient d'affluer sans que je les appelle, et qu'il y en avait à peu près le même nombre, je sais pas. Donc le vivier des noms, c'est aussi faire quelque chose avec les nouveaux noms qui prolifèrent un peu tout seuls. C'est pour ça que j'appelle ça l'endroit où ils sont dans ma machine, je l'appelle, c'est un vivier.
Alors dans ce vivier, on trouve l'anthropophore, le zoographe, la femme de plurimots perplexes, l'enfant de Matagas, l'enfant sextuple, l'enfant gymnophysicien, le pousseur de corps, le dernier vivant, Jean Trou Verbier, fils de la viande, l'enfant millimétrique, la mangeuse de oui, le souffleur bordiac, le loco-logeur, le déglutisseur creux et tant d'autres. Qu'est-ce qui se cache derrière les noms, Valère Novarina?
Je sais pas très bien. C'est vrai que j'ai. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, quand j'étais enfant, les noms des morts de la guerre de 14 qu'on allait voir avec quand il fait le 11 novembre, etc. Et puis, je sais pas. J'ai par exemple à une époque, il pouvait pas y avoir dans un journal un manifeste signé par 800 personnes sans que je le lise intégralement. Je devais ce devoir.
Vous lisez tous les noms.
Ah oui. Non, mais maintenant c'est fini. Je me maîtrise. Mais j'étais obligé de lire tous les noms. C'est aussi peut-être le fait qu'en Savoie, ce qui est le pays dont je viens, les paysans avaient deux noms. Il y a le nom officiel et le surnom. Et c'est le surnom qui est le nom vrai, le nom vivant. José Tamalet, Fonfait Pio, Pita Paco, etc. Il y a une sorte de double nomination de tout le monde. Et j'ai beaucoup travaillé sur recueillir ces noms exacts dans les campagnes. Alors bon, j'ai l'impression d'être naturellement une fontaine de noms, mais je m'impose plutôt des limites et je me dis le prochain texte, il me sera interdit de jouer avec ça. Enfin, pas de jouer, mais de continuer cette pulsion, une pulsion nominative. Mais tout ça vient peut-être dans le fond aussi d'un des passages les plus simples et les plus beaux de la Bible. C'est lorsque Dieu fait défiler des animaux qu'il a créés et Adam les nomme. Je trouve que c'est extraordinaire. Il dit la sauterelle, le hanneton, le tigre, l'ours blanc, etc. Donc cette joie de donner des noms aussi.
Cette joie de nommer, vous êtes presque un démiurge, on va le voir, Valère Novarino. Ce qui est intéressant dans les noms, c'est qu'on ne les choisit pas. On choisit ni notre prénom, ni notre nom de famille, ni nos surnoms généralement, mais ils disent quand même quelque chose de notre identité. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre nom à vous, Valère Novarino? Que cachez-vous derrière votre nom? Valère, ça nous dit quoi quand même? Un tout petit peu d'où vous venez? Vous êtes un enfant de Molière. Votre mère était comédienne,
c'est ça, ma mère était comédienne. Elle jouait dans l'Avare, à la Comédie de Genève. Elle avait, je sais pas, 17-18 ans. Elle connaissait pas encore mon père ni personne. Et en jouant l'Avare, elle a...
Dans Tartuffe, c'était l'Avare.
Est-ce que c'est Tartuffe ou l'Avare? Je sais plus. Et, oui, couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère. Je sais plus si c'est dans l'Avare ou dans Tartuffe. Donc elle a fait ce jour-là, elle a décidé, si j'ai un fils, je l'appellerai Valère. Et c'est vrai que un nom un peu singulier à porter. À une époque, on n'était que 7 ou 8 en France, voilà.
Et Novarina, ça c'est le nom du père?
Novarina, oui, c'est un nom du Piémont, d'Italie du Nord, mais qu'on rencontre aussi souvent dans les pays slaves. Il y a un amiral Novarine en Russie, etc. Enfin bon, voilà, il y a aussi un nom un peu mystérieux.
Vous vous sentez bien dans ce nom, Valère Novarino?
Oui, je... Oui. Curieusement, vous voyez, le prochain livre que je vais publier chez Powell s'appelle Voix négative. Parce que depuis très longtemps, j'ai toujours lu dans mes initiales les initiales de voix négative aussi. Et donc, à une époque où j'étais immergé dans l'adolescence, ou quand j'étais à Paris, peut-être un peu plus tard, j'étais totalement immergé dans Mallarmé. Et j'avais lu que la devise de Mallarmé était la destruction fut ma Béatrice, et j'avais aussitôt adopté comme devise la négation fut ma Béatrice. Maintenant, il faudrait expliquer pourquoi, et c'est ce que ce livre tourne autour de ce quelque chose que j'appelle le niement, qui n'est pas la négation, qui n'est pas la destruction, qui est plutôt l'ardeur de quelque chose pour passer à la suite, quelque chose d'un peu un mouvement un peu dialectique que je rattache au mouvement de la respiration.
Et si vous deviez vous choisir un surnom, vous choisiriez quoi?
Alors je reste quoi?
Ah, vous avez inventé des milliers de noms et vous en êtes pas
enfin,
trouvé
je peux
un
vous
pour
dire vous quand même le, je peux vous dire juste. Quand même le surnom que m'avait trouvé le peintre Gauvin, qui est un grand ami à moi. C'était Valère le Pieux où on le plante, il reste. c'est assez comique. Une part obsessionnelle de mon travail et la sensation de ruminer des choses et de les faire tourner autrement pendant très... D'avoir reçu un champ assez étroit avec quatre bornes et d'avoir continuer à creuser ce champ jusqu'au bout.
Et vous êtes un terrien, vous avez les deux pieds sur terre comme un peu bien planté. Dans le sol.
Oui, oui, oui.
Valère Novarina, la pièce « Le vivier des noms » a été présentée pour la première fois au Cloître des Carmes à Avignon en 2015. Elle arrive dans une version un peu remaniée, un tout petit peu raccourcie, en tout cas au Théâtre 71, scène nationale de Malakoff. Ce sera mercredi jusqu'au 26 janvier. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Le théâtre est vide. Entre Adam.
D'où vient qu'on parle? Que la viande s'exprime?
La feuille de vigne vous va bien?
C'est une feuille d'érable, je suis un Adam du Québec.
Il sort. Entre l'anthropophore, le zoographe, l'acteur de toute viande, la femme du plurimo perplexe, l'enfant de Matagas, l'enfant sextuple, l'enfant gymnophysicien, l'enfant de Parlamus, la valeur jamais plus, valvulcine, Jean négatif, l'homme gymnospirale, le pourfendrier logique, l'ambulancier glodon, le balustrier bleu. Ils embrassent le trou de science et sortent. Entre un chien.
L'homme n'est pas né.
Human being is no born.
Extrait de votre pièce Le vivier des noms. Dans cet extrait, on entend l'historienne nommer et Adam s'interroger. D'où vient qu'on parle, que la viande s'exprime? Adam, c'est le premier personnage à prendre la parole aussi dans Le drame de la vie. D'où vient qu'on parle, que la viande s'exprime? Le drame de la vie, publié en 84. C'était déjà, vous l'évoquiez, 2587 personnages entrant et sortant, naissant et mourant. À la fin, le vrai sang, encore un fleuve à la fin du vrai sang, une autre de vos pièces, encore un fleuve de noms, une prolifération que vous appeliez déjà le vivier. Aujourd'hui, il y a donc ce livre, Le vivier des noms, paru chez POL, et la pièce qu'on peut voir à Malakoff pour l'instant. Ce nouvel opus, Le vivier des noms, ça relève de la reprise pour vous, ou c'est un prolongement?
C'est une pièce qui communique avec les autres pour plusieurs raisons. On a créé cette pièce au Cloître des Carmes. Et quelques années auparavant, on jouait une pièce qui s'appelait La Seine. On devait jouer La Seine au Cloître des Carmes. Le festival était interrompu et on est reparti sans... Le camion des décors est arrivé comme un corbillard et tout est parti sans que rien n'ait eu lieu. Mais il me semblait que ce cloître était encore imprégné des phrases qu'avaient prononcées Myrtou Procopiou, Dominique Pinon, etc. Donc ça, l'idée d'écho, et puis ça s'est fait peu à peu. Et aussi... J'étais en train, au moment où se commençait la mise en scène, de projeter une exposition qui s'appellerait « Repentir ». C'était, je voulais reprendre des toiles que j'ai peint il y a 20 ans, 25 ans, 18 ans, les recouvrir de noir et en faire d'autres, ou les tourner et les continuer à l'envers. Enfin voilà, cette idée de retouche, de reprendre sans arrêt des choses. Ça ne me fait pas peur.
Les recouvrir de noir et en recommencer des nouvelles, c'est plus que de la retouche.
Oui,
c'est effectivement un acte de repentance important. Hein, ouais.
Donc, pour moi, c'était un mouvement naturel parce que j'étais quand même très nourri. Je suis malheureusement pas du tout musicien, mais très nourri quotidiennement pendant 15-20 ans de l'écoute de la musique de Bach, qui ne fait que reprendre sans arrêt d'un concerto, une cantate profane, etc. Donc cette idée qu'il faut retoucher les matériaux, montrer que la construction change le sens des mots, etc., que les mots réagissent à l'espace et à l'espace du livre. Donc j'avais pas peur de reprendre, et puis peut-être pour essayer de comprendre quelque chose aussi.
Les mots et les idées, on imagine. L'historienne qui égrène les noms et fait surgir des hommes ou des situations, on vient de l'entendre. Quelle histoire nous raconte-t-elle, cette historienne? Quelle est sa fonction dans la pièce?
Ça s'appelle
maîtresse de cérémonie, un peu.
C'est un personnage qui existe dans beaucoup d'autres textes que j'ai écrits. Cette fois-ci, c'était l'historienne un petit peu en souvenir des 120 journées du Marquis de Sade. Ailleurs, elle s'est appelée l'évangéliste, le chant. C'est une fonction un peu liturgique. Elle permet le théâtre épique et c'est un autre rythme, une autre écoute. On écoute le langage différemment. On n'est pas pris dans un seul langage mais on change de lieu et on change d'émotion. Je sais pas comment dire, un nouvel espace et un nouveau temps se construit à chaque entrée d'un personnage en scène. Mon père, qui était très, très proche du cirque, qui a connu les Fratellini, qui allait dans leur loge, etc., nous disait régulièrement, enfin tous les trois mois, à ma mère qui était actrice et à moi, que le théâtre ne valait rien, que le grand art c'était le cirque. Et il nous disait que c'est parce que le cirque, l'espace, le dompteur arrive et il apporte à nouveau le cercle qui avait été dessiné dans un autre sens par les chevaux avant. Et il y a eu les trapézistes qui, avec l'espace céleste, le clown qui contrefait tout, qui tombe au sol. C'est une sorte d'effervescence de l'espace. Et c'est vrai que les acteurs, lorsqu'on travaille en répétition, ils posent des questions. Je suis bien incapable de leur parler de la pièce, mais je leur parle très précisément du drame de l'espace.
D'ailleurs, votre premier contact, vos premières expériences, vous, du spectacle au sens large, c'était justement les fêtes foraines, c'était le cirque. Vous ne venez pas d'un théâtre conceptuel, ni d'un théâtre hyper classique dans votre enfance, en tout cas. Et pourtant, vous le racontiez, votre mère était comédienne. Mm-hmm. C'était vraiment la fête foraine. C'était ce côté très festif du théâtre et des planches.
Oui, et très populaire. Quand je suis arrivé à Paris, je suis allé voir absolument tout ce qui se faisait au théâtre, y compris, j'ai vu Bourville dans Fifi, j'ai vu La Grande Eugène, je suis allé voir des spectacles au Crazy Horse, et je voulais absolument voir le théâtre sous sa forme la plus simple, vivante, et aussi, bon, voir des planchons, etc. Mais j'avais un grand appétit de voir des acteurs comiques. C'est comme ça que j'ai découvert Louis de Funès, parce que j'admire beaucoup les acteurs comiques parce que ce sont d'immenses rythmiciens. Dans l'émotion un peu poétique ou sentimentale, on peut toujours frapper à côté, ça va passer, mais le comique est impitoyable. C'est comme une partition musicale.
Ça ne doit pas être facile d'être comédien et interpréter vos textes, hein, notamment quand on pense à l'historienne, tout ce qu'elle a à apprendre, tout ce qu'elle a à transmettre, oui. Avec que des mots inventés, triturés, oui. Recomposés, Valère Novarina. Vous vous rendez compte de ce que vous leur infligez, avec, j'imagine, beaucoup de bienveillance?
Claire Sermonne m'a fait remarquer il y a quelques temps que c'était étrange qu'elle arrive à se souvenir de ces 1500 noms, parce qu'elle m'a dit « Dans la vie, j'ai aucune mémoire des noms. » Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de ce sont des acteurs, des grands virtuoses aussi. Dominique Parent avait été appelé tout d'un coup pour créer un rôle en deux jours, etc. Et il m'a dit, écoute, on fait appel aux acteurs de chez Novarina comme on fait appel au GIGN. C'est-à-dire ce sont des acteurs surentraînés qui sont capables de faire face.
Et vous avez un acteur fétiche, si on peut dire ça comme ça, à qui lui aussi on peut quand même saluer son travail d'acteur et de mémorisation, extrait du Discours aux animaux.
C'était le jour du petit séparateur, la veille des fêtes des 13 000 tubes. Je demandais le matin à mon corps, retrouvé par hasard, fallait-il être en mort, mon corps, le pourrions-nous? À peine levé, je marche et je porte à Madame Bargilas trois questions en rampant qui faillirent n'en faire qu'une. Pourquoi le corps est-il porté? Pourquoi l'espace est-il en quatre? Pourquoi le mort dit-on qu'il sort? Elle répondit, pourquoi vos chairs sont-elles parlées? Je répondis, vous, qui êtes sur cette terre depuis plus longtemps, avez-vous cru dans la chair de mes esprits? Où tombe-t-il donc ce subrepticement? Pourquoi de chair l'esprit soit-il? Pourquoi les bêtes, dit-on qu'elles passent? Ont-ils une suite comme nous qui sommes? Pourquoi la terre est-il par terre? Pourquoi les gens vont-ils par deux? Vont-ils en haut? Sont-ils des végétaux? Le lion grisole, le bœuf blatère, la louette rugit, la caille locute. Pourquoi les hommes sont-ils en vrai? D'où viennent nos sons? Pourquoi entrer avant de partir?
André Marcon. Et pas Emmanuel Macron, hein, attention. Ah oui. 1986, le discours aux animaux, oui. Valère Novarina, exceptionnel. Hein,
ah, c'était un enregistrement extraordinaire, oui. Et qu'il a fait ça d'une traite. Il n'y a absolument eu aucune retouche. C'était d'une traite dans un chai à Bordeaux avec une acoustique extraordinaire. Et ce qui était très beau, si je me souviens, je parlais avec André, je lui disais, ce qui est très fort, c'est que tu es à la fois un immense pianiste, tu es avec un rapport à la partition d'une précision extraordinaire, tu es à la fois Sofronitsky, Richter, Edwin Fischer, etc. Et à la fois, tu es un bonhomme dans le métro, sur le trottoir d'en face, qui me raconte quelque chose. Et je pense que je pense que la musique rejoint la vérité. Je pense que ce sont deux qui trouve la musique trouve la vérité, et qui trouve la vérité trouve la musique. J'ai toujours cette sensation.
Alors on va trouver la musique en espérant trouver la vérité. Manu Dibango, il est midi 22 sur France Culture. À l'ouverture du festival Au fil des voix, le grand Manu Dibango, saxophoniste camerounais, l'inventeur de l'afro-jazz. Il sera ce soir à l'Alhambra à Paris. On vient d'entendre un extrait de son album Balade en saxo, sorti en 2013, I Love Paris.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Vous ne nous avez pas dit, Valère Dovarina, ce que représente la scène, cet espace-là, pour vous, mettre en scène le rapport entre les mots et l'espace. Est-ce que le théâtre, c'est d'abord pour vous le lieu de la toute-puissance verbale?
C'est le lieu du drame du langage dans l'espace. Enfin, l'espace, c'est... Quel est le lieu de l'espace? Quel est le lieu du langage? Il n'y a pas de lieu du langage. Le langage est sur la page, sur la scène, dans notre corps, dans une forêt, et on entend autrement selon le lieu. Le langage miroite selon le
selon lieu. Le lieu. Mais alors, du coup, la scène avec vous, on y entre et on y sort. Qu'est-ce que représente cet espace pour vous?
D'abord, je dois dire que je travaille avec un scénographe qui est Philippe Marioge, et qui est quelqu'un qui c'est un architecte aussi. Donc, il a un sens extraordinaire des choses mystérieuses, des forces de l'espace. Et je lui dis chaque fois ce qui est très beau avec très agréable et très, 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 très frappant avec tes scénographies, c'est que tu finalement on arrive à une sorte de portée comme ça, et il n'y a plus besoin de faire des mises en scène, tout prend sa place, tout va se placer dans l'espace sans qu'on réfléchisse. C'est-à-dire la grille, la portée, etc.
Elle est très colorée, la scène, parfois, chez vous, le décor, c'est notamment le cas dans Le Vrai Sang, que vous avez mis en scène à l'Odéon en 2011. Dans Le Vivier des Noms, au contraire, c'est plutôt un monde en noir et blanc que vous nous avez peint.
Oui, ce sont comme un jeu de cartes à jouer. Et l'idée, il m'a demandé de lui parler un peu de la pièce, je lui ai dit, je travaille sur un amas de noms, une constellation de noms tournoyants, et il a eu tout de suite l'idée des dessins, d'un jeu de cartes à jouer.
Des panneaux de tarot, un peu. Ouais.
Un espace fragile. J'ai toujours comme modèle quand même le théâtre japonais avec le no, comme ça on apporte un accessoire, une chose se construit à vue, ça disparaît, ça n'existe pas, hors de l'existence éphémère sur le plateau. Donc le côté disparaissant du théâtre, apparaissant, disparaissant du théâtre, et là est l'émotion quand même.
Alors justement, André Marcon, qu'on entendait tout à l'heure en 86 dans le discours aux animaux, disait de vous, les acteurs qui ont joué son théâtre le savent, c'est une ivresse, une joie. Ils doivent effectivement interpréter, se mettre en bouche tous vos mots, en fait, hein, Valère Novarina, vos jeux de mots, vos analogies, vos néologismes, toutes vos inventions linguistiques et langagières. Observez les logaèdres des aphorismes à ce néologisme que vous avez créé. Pourquoi inventez-vous votre propre langue? Vous vous retrouvez pas dans la nôtre?
Non, je l'invente pas, mais disons, je m'intéresse au français à l'état natif, au français mettre notre langue dans un état printanier, le français dans une qui peut créer aussi d'autres mots français. Je sais pas comment dire. Pour ça, j'aime beaucoup les écrivains un peu anciens du 16e siècle, 15e siècle, etc., mais qui a une sorte de puissance germinative dans notre langue, qu'il n'y a pas que ce qui est répertorié dans les dictionnaires, mais j'aime beaucoup les dictionnaires aussi. Et disons, pensez que notre langue est comme un puits qu'on visite, on descend profond, on remonte, etc. C'est très important d'en connaître les strates et aussi retrouver la joie du langage et le langage comme zone érogène. Enfin, je sais pas comment dire. Il se perd beaucoup. Les gens, tout le monde parle de plus en plus dans un style mitraillette en morse comme ça, de précipité. Il n'y a plus l'épanouissement, la respiration des longues, des brèves, l'essentiel, c'est le souffle. C'est le souffle qui, dans le fond, renverse les mots. Je pense que la pensée n'est pas un agencement géométrique de mots et mécanique de mots, mais c'est une consommation. C'est un brûlement du langage aussi, voilà. Il faut que, dans le fond, se méfier des mots et aller plus loin que les mots par la pensée, par la respiration, par la dialectique. Et, enfin, les obsessions un peu puisque je suis un peu obsédé, l'obsession du moment, c'est toujours que le langage animal préfigure la pensée. Que la pensée aussi expire, inspire, connaît la mort, renaît. Que la, si une pensée n'est pas, il y a pas une, cette dialectique, cette vie, et que toute retrouver une quelque chose d'organique dans le langage et pas le langage mécanique qui se répand autour de nous de façon terrifiante en ce moment.
Alors l'acte inconnu qui fait l'ouverture du Festival d'Avignon en 2007 a depuis été créolisé sur l'île par des comédiens haïtiens. L'un d'eux dit qu'un comédien qui joue du Novarina devient un demi-dieu parce qu'il crée le langage. On terminera de là-dessus. Vous, Valère Novarina, en démiurge. Il y a quelque chose de mystique quand même qui traverse aussi, votre œuvre.
Oui, c'est vrai. Je le reconnais parfois.
Parfois. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, je le reconnais.
Ce sera pour un oui. Donc, merci beaucoup, Valère Novarina. Le Vivier des noms. Le texte est paru chez POL et se trouve aujourd'hui en librairie. La pièce est à voir pour l'instant à Malakoff. Ce sera à partir de mercredi. Il y aura une tournée. Ça va continuer.
Encore un peu.
Encore un peu. Merci beaucoup.